J'ai ici quelques connaissances, mais pour les autres, je suis obligé de me présenter. Donc, je m'appelle Pierre Auduro, je suis bordelais, franc-maçon. Vous savez que la franc-maçonnerie est née en France, en particulier à Bordeaux, dans le début du XVIIIe siècle. Et donc, pour ma part, je m'intéresse, on va dire, à la métamaçonnerie. Alors, je vous expliquerai le mot méta parce qu'il va nous accompagner tout au long du temps. Je suis mathématicien. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire un cours de mathématiques, bien que nous parlions du nombre 3 et que je vais quand même être obligé de vous dire qu'un nombre n'est pas un chiffre. Et qu'il y a une grande confusion, il faudra bien l'éclairer quand même. Ça marche? Bon. Alors, j'ai écrit des bouquins de maths, mais ça, comme je dis, ce sont des bouquins porno, parce qu'il y a des X partout. Et depuis peu, j'écris des bouquins sur la franc-maçonnerie. Alors, celui-ci fut le premier. Celui-ci, pour ceux qui ne connaissent pas la franc-maçonnerie et qui veulent avoir une réflexion dessus, est un livre intéressant. J'en ai écrit un autre que je ne vous présenterai pas parce que je trouve que l'éditeur est une crapule, donc on passe. Donc ce que je vous présente, ce sont des gens bien. Donc je vais vous parler du nombre 3, voilà, et le petit dernier qui fait un tabac dans les ventes, mais qui n'intéresse que les francs-maçons, et celui-ci, planche, comment les réussir. Donc pour l'instant, je vais vous parler du nombre 3. Et je vais d'abord vous expliquer pourquoi avoir choisi de parler du nombre 3 alors qu'il y a énormément de publications, d'articles où on parle du nombre 3, où on recense les occurrences de 3. Mais tous ces articles, tous ces ouvrages ne disent pas pourquoi on utilise de façon aussi puissante, on va dire, on utilise ce nombre. Et ça, c'est vraiment intéressant. Les occurrences, après tout, je ne les cite pas toutes. Et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi ce nombre est-il aussi interpellant. Voilà, donc ma thèse est que 3 est, à la façon dont Carl Gustav Jung parle des archétypes, 3 a une nature archétypale. Qu'est-ce que c'est un archétype? Un archétype, c'est une forme a priori que nous avons dans la psyché, une forme, comme il y en a tant, qui est déclenchée, enfin dont l'influence est déclenchée dès lors qu'un certain nombre de facteurs la suscitent. Alors, on est interpellé par telle ou telle situation, mais vous-même, vous avez des schèmes personnels, un parfum, une chanson va vous rappeler quelque chose. Et un archétype, c'est un héritage de toutes nos civilisations, depuis les premiers hommes. Hein. Il ne s'agit pas d'une culture moderne, d'une culture récente. Il s'agit de formes a priori qui sont dans l'esprit et qui sont héritées de l'espèce, des différentes structures, des différentes sociétés. Bien. Donc, je disais que le nombre 3, nous le trouvons dans de nombreuses occurrences, c'est-à-dire de nombreuses occasions. On va remplacer occurrence par occasion, mais que, je me répète un peu pour les gens qui arrivent, mais que nous ne sommes jamais préoccupés de l'importance et de la nature de ces occurrences et pourquoi ces occurrences interviennent aussi souvent. Alors, je disais donc que l'un des facteurs les plus importants, justement, est que, pour moi, ça n'engage que moi, évidemment, et c'est peut-être assez présomptueux, 3 a une structure archétypale. Donc, cela signifie, je le répète, excusez-moi, je me répète un peu, mais... cela signifie qu'il y a dans notre psyché un certain nombre de moules, a priori, on va qualifier ça de moules, qui, en fonction d'un certain nombre de situations, déclenchent des réactions. Et ces moules, ces archétypes, qui viennent la plupart du temps donc de l'espèce humaine, des traditions, de l'historique, enfin, c'est assez compliqué. Mais pour le nombre 3, c'est quelque chose qui est certainement à l'origine apparu dès les premiers hommes. Pourquoi ? Eh bien, parce que si nous y réfléchissons bien, il y a un certain nombre de situations dans lesquelles nous nous retrouvons avec ce ternaire. Alors j'emploierai indifféremment 3 ternaires, évidemment, quelquefois triangle quand je déraperai vers la géométrie. Et parmi les ternaires les plus sensibles à l'individu, il y a évidemment le ternaire enfant-parent, père-mère. Les psychiatres vous diront que l'adulte est fabriqué durant les premières années. Et durant les premières années, c'est vrai que l'enfant a pour interlocuteur naturel, même s'il a des frères et des sœurs, il a pour interlocuteur naturel son père et sa mère. Un ternaire fondamental. Et ce qui est intéressant et qu'on va retrouver dans notre situation, c'est que ce ternaire apporte quoi ? Il apporte la sécurité, il apporte le confort, l'harmonie, tout ce qu'un enfant peut attendre de ses parents. Et nous allons retrouver ça dans d'autres situations. C'est très surprenant, nous retrouvons ça dans notre situation. Maintenant, il y a aussi une situation que nous connaissons bien, mais que connaissent même les animaux d'ailleurs. J'entends un bruit. Je réfléchis et je réagis. Voilà, j'entends une toux, je réfléchis et je dis quelque chose, éventuellement. C'est-à-dire, je suis interpellé par quelque chose, j'analyse et je réagis. Signal, on va abstraire un peu, signal, réflexion, action. Ce n'est pas propre à nous. Regardez votre chien, votre chat, n'importe quel animal va faire pareil. Nous sommes là aussi dans une structure ternaire qu'on va retrouver dans des situations très complexes. Je parle par exemple de la situation kabbaliste. Dans la Kabbale, on va trouver ce ternaire, mais on va le trouver dans nombre de situations. Nous avons donc d'autres situations qui interviennent. Alors, j'ai pris quelques notes parce que je ne sais pas mon bouquin par cœur. Je l'ai écrit, rassurez-vous, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais vous avez aussi dans la vie, évidemment, 3 phases qui sont bien connues, qui sont symbolisées par le sphinx, ou la sphinge plutôt, enfin peu importe, c'est-à-dire l'enfance, la maturité et la sénescence, la vieillesse. Ce sont aussi des phases qui interpellent l'individu, qui l'interpellent et qui l'interpellent de loin, parce que souvenez-vous par exemple que du temps des Néandertals, on a bien vu que ces gens étaient sensibles à toute cette succession et que même les tombes étaient décorées afin de faire continuer la vie au-delà. Donc, il y a effectivement une influence ternaire très importante qu'on va retrouver un peu partout, qui fait qu'on peut dire que 3 a des propriétés archétypales. Regardez, Je dis 1, 2. 3, le téléphone sonne. Il suffit de dire 1, 2 pour que 3 arrive. On dirait que 1, 2 est imparfait et qu'il a besoin de 3 pour exister. Le starter, dans une course, à vos marques, prêt, partez. Toujours, on utilise 3. On l'utilise géométriquement, par exemple, vous avez le triangle dont on va longuement parler, et en particulier un triangle que j'adore parce qu'il est harmonieux, parce qu'il a plein de beauté, c'est le triangle équilatéral. Vous le connaissez tous, hein, même ceux qui n'ont pas fait beaucoup de mathématiques, vous n'allez pas me dire que c'est des mathématiques. Le triangle équilatéral est un triangle, on ne peut plus harmonieux. Voilà, donc nous avons... Alors, il faut que je fasse attention, excusez-moi, parce que je n'ai qu'une demi-heure pour parler, ou une heure, et il faudrait quand même que je... Alors, nous avons d'autres situations. Par exemple, vous avez dans le discours, pour ceux qui sont littéraires, il doit bien y en avoir ici, malgré le titre du bouquin et le titre de la conférence, il doit bien y avoir des littéraires. Thèse, antithèse, synthèse. Voilà. Eh oui. Oui, et on va déboucher à ce moment-là, et pour nombre de choses, on va déboucher sur le concept méta. Ah, méta, ça veut dire au-dessus, si vous voulez. Hein. Donc, quand je vais parler d'un ternaire, je vais vous dire que ce ternaire est lui-même d'essence différente des éléments qui le constituent. C'est ça qui est compliqué. Exemple, donc, on a dit thèse, antithèse, synthèse. Cet ensemble-là devient un nouvel élément qu'on va appeler le je cherche mon mot là, hein. J'ai perdu, donc j'aurais dû... Disons un plan spéculatif, quelque chose comme ça. Et donc, nous allons retrouver ça partout. Nous allons retrouver ce concept méta qui fait que, je vais prendre un exemple que vous connaissez presque tous, sinon tous, la Trinité chrétienne. On y reviendra, mais vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, vous n'avez pas ainsi soit-il. Non, non, non. Vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pardonné, mon Père. Et ceci constitue la Trinité. Donc la Trinité est d'essence différente des éléments qui la composent et qu'on appelle d'ailleurs en l'occurrence des hypostases. Quand nous allons avoir les nombres, nous allons avoir la même situation. Et c'est pour ça que j'insiste un peu pour vous faire comprendre, là avec trois éléments. Alors il faut avoir des... Je devais projeter, mais je n'ai que le choix entre l'enregistrement et la projection. Donc, il est préférable d'enregistrer que de projeter. Les images sont évanescentes. Mais pour essayer de comprendre et de fixer votre attention, réfléchissez à une pyramide. Vous avez, on va reprendre la Trinité chrétienne, vous avez le Père, le Fils... Le Saint-Esprit, hop, on monte la pyramide, et au sommet de la pyramide, ce qu'on appelle l'apex, vous avez la Trinité. La Trinité est d'essence différente de chaque hypostase. Nous allons trouver ça de façon beaucoup plus compliquée, peut-être, c'est pour ça que je prends quelques précautions et que je fais ça à dose homéopathique. Nous allons faire ça avec les nombres. Parce qu'il faut en parler, finalement. Je suis là pour parler du nombre 3. Alors, qui a vu un nombre ? Tout le monde croit en avoir vu, et je vais vous décevoir, personne n'en a vu. Tout le monde croit avoir vu des nombres, personne n'en a vu. Tout le monde a vu des manifestations qui font penser au nombre. Alors, comment vais-je définir le nombre ? Eh bien, d'où vient le nombre ? Au départ, il vient évidemment du dénombrement. C'est-à-dire, même pour les hommes préhistoriques, combien j'ai de gibier, combien j'ai de haches, etc. Mais on ne sait pas compter à cette époque-là. Mais on sait peut-être comparer. J'échange une hache contre un lapin, c'est peut-être pas assez cher. Mais enfin bon, contre 10 lapins, on va dire. Peu importe. Je vais trouver un ensemble qui a par exemple 5 éléments, parce qu'il faut que je nomme pour que vous compreniez. Et puis un autre ensemble qui aura le même nombre d'éléments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux les mettre en correspondance. Un élément de l'ensemble de gauche, pour moi, de droite pour vous, est en correspondance avec un élément de l'autre ensemble, et ainsi de suite. Et la correspondance est binivoque. Cela signifie qu'à un élément correspond à un élément, et que cet élément-là ne correspond qu'à l'autre. À partir de là, je vais dire que si je suis capable de prendre des ensembles que je dessine, que je dispose sur le sol, des ensembles qui sont en correspondance biunivoque, je vais dire, en tant que mathématicien cette fois, excusez-moi, je vais dire qu'ils ont le même nombre d'éléments, le même nombre. Donc le nombre, c'est quelque chose qui est, c'est un concept méta, comme je disais tout à l'heure, par rapport au dénombrement. Mais évidemment, si on ne voit rien, il faut quand même réaliser. Donc, pour réaliser, soit je vais disposer de collections d'objets correspondant au nombre, mais enfin, je ne peux pas me trimballer, par exemple, avec 10 cailloux en permanence pour montrer le nombre 10. Donc, je vais avoir des représentations symboliques du nombre. C'est déjà difficile à comprendre. Ça nous paraît très simple, mais mettez-vous à la place, par exemple, des premiers hommes, comment signifier ça? Eh bien, au départ, avec des traits, tout simplement. On mettait autant de traits qu'il y a d'objets. Vous avez un exemple remarquable, ce sont les os d'Ishango. On a trouvé deux os dans le... À Ishango, c'est dans le Congo Kinshasa. C'était à l'époque dans le Congo belge. Et ces os portent des marques. Des marques qui visiblement sont des dénombrements. Alors là, il y en a qui disent que ce sont des dénombrements purs et simples, parce que les premiers hommes avaient besoin de dénombrer ne serait-ce que les bêtes de leur troupeau dès lors qu'on est arrivé au stade néolithique. Mais certains disent, oulala, les os d'Ishango, c'est beaucoup plus compliqué. On y voit des nombres premiers. Il y en a d'autres qui voient un calendrier lunaire. Et ça, c'est pour le premier os. Le second n'est pas encore dépouillé. Donc pour le second, qu'est-ce qu'on va obtenir? Il ne faut pas trop rêver, mais toujours est-il que les premiers hommes, et nous encore, on dénombre souvent avec des barres. Regardez ce qui se passe aux élections. Hein? Tartempion, tartifume, tartempion, tartifume, 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 tartempion. Et puis quand il y en a cinq, on fait un symbole sténographique qui est un carré avec une diagonale. Et ce n'est qu'après qu'on va utiliser une écriture un peu plus complexe. Quand on aura tout dénombré, on va dire Tartempion a 25 voix et Tartifume en a 27. Et à ce moment-là, on l'écrira avec une autre notation qui est beaucoup plus évoluée, qui est la notation que nous utilisons habituellement et qui est la notation indo-arabe. Certains disent arabe. Non, il faut rendre non pas à César, mais justement aux hindous ce qui leur appartient, aux indiens ce qui leur appartient, à savoir que c'est une notation qui vient d'abord de l'Inde, qui a été adoptée par les Arabes et qui a été ensuite transportée dans l'Europe continentale et l'Europe occidentale. Donc on a des notations comme ça. On en retrouve les premières notations qu'on retrouve et qui sont véritablement explicites. C'est à Sumer qu'on les retrouve. Pour l'instant, c'est la notation la plus ancienne qu'on ait trouvée, où il y a véritablement des symboles et des règles d'assemblage. Si vous voulez, c'est un langage. Les symboles, ce sont des mots, Et les règles d'assemblage, c'est une grammaire. Et on obtient ainsi une langue qui s'appelle la numération. Donc nous avons la numération sumérienne, que nous connaissons bien, parce que vous savez très certainement que Sumer est une civilisation qui, dès 6000 ans avant Jésus-Christ, était déjà très développée. Et nous avons, enfin nous, les hommes et les archéologues, ont retrouvé énormément de plaquettes d'argile qui étaient l'image de la société. Donc, Sumer, c'est tout à fait extraordinaire. Je vous recommande un bouquin de Kramer qui s'intitule « L'histoire commence à Sumer », qui se trouve chez Flammarion. Je crois que c'est Essai, la collection Essai de Flammarion. Un petit bouquin jaune qui ne vaut pas cher et qui est vraiment extraordinaire, où on vous raconte que Sumer... si je pars sur Sumer, c'est foutu, mais enfin, un petit peu quand même. 4000 ans avant Jésus-Christ, il y avait des assemblées générales, des contrats de travail. Ouais, déjà. Et ils n'avaient pas le Lefebvre. Hein. Tant mieux pour eux, d'ailleurs. Des contrats de travail, des contrats commerciaux, des comptes rendus d'assemblée, une comptabilité. Alors, la comptabilité, je vous la passe parce qu'elle est en base 60. On a d'ailleurs un héritage actuellement. C'est le temps que nous mesurons avec les heures, les minutes, les secondes. C'est en base 60. Vous voyez la difficulté quand vous dites le 15 juin à 19h30 et 23 secondes et le 12 juillet à 20h, 1 minute et 25 secondes. Et faites la différence. Vous allez m'en donner des nouvelles. Alors, les comptables de Sumer, chapeau. Hein. Bon, et donc là, on avait comme chiffre des clous. Alors je représente, c'est une barre horizontale et une barre verticale avec deux congés. Et on avait des chevrons. Le chevron représentait 10, le clou l'unité. Après, les Romains ont fait à peu près la même chose, sauf qu'ils ont agrandi la sténographie. Alors, donc il y a eu les barres, le X pour le 10, et puis le D, le L, le M. Donc, ils ont un peu complexifié la chose. Bon, nous avons donc un certain nombre de règles comme ceci. Alors, les Grecs et les Hébreux, eux, utilisaient les lettres, les premières lettres de l'alphabet. Donc, alpha pour 1, par exemple, au niveau des Grecs. Et donc, ça, ce n'était pas très, très facile comme calcul. Et c'est vraiment quand nous avons eu la notation indo-arabe que nous avons pu faire des calculs de façon subtile. Mais bien avant, il y avait des... Pour ceux qui auraient mon livre, là, vous avez dedans la photo de la machine d'Anticythère. La machine d'Anticythère est une machine astronomique qui est tout à fait extraordinaire, avec des roues dentées. Et ça a été découvert dans une épave grecque, dans l'île d'Anticythère. Donc, c'était déjà très, très en avance hein, par rapport à nous. Qui sait de nos jours faire des calculs astronomiques avec une machine et des roues dentées? Bien, passons. Dans le ternaire, nous allons avoir... Donc, des images. Des images, et la première image qui vient à l'esprit, ça serait le triangle. Mais nous avons aussi une numération triangulaire. Le 1, par exemple, peut être représenté chez les Grecs par un triangle et un rond. Le 3, par un triangle et un rond et deux ronds. Le 10 qui est important, c'est-à-dire la tétrakis, qui était de nature divine, selon... alors, je ne sais plus le nom, le théorème de Pythagore. Selon Pythagore, la tétrakis, c'est 10, mais c'est un nombre triangulaire. 1 et 2, 3. Et 5, Pardon. 1, 2, 3 et 4. 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça fait 10. Voilà. Donc, nous avons des nombres qui sont représentés aussi par des carrés. Un, toujours, un carré et un rond. Vous direz, il est triangulaire et il est carré. Oui, c'est exact. Mais vous avez 4. 2 et 2. Vous avez 9. 3, 3, 3. Tiens, c'est bien pour ça que l'on les appelle des carrés, encore de nos jours. C'est hérité de cette utilisation grecque. Bon, je vais aller un peu plus vite, sinon je vais rester sur le nombre. Alors, je répète donc. Le nombre, c'est quelque chose d'abstrait qui est le résultat de ce que, en mathématiques, nous appelons une relation qui est à la fois réflexive, c'est-à-dire je suis en relation avec moi-même, symétrique, c'est-à-dire que si quelque chose est en relation avec l'autre, l'autre est en relation avec ça, avec le premier, et transitive, c'est-à-dire que si A est en relation avec B, si B est en relation avec C, A est en relation avec C. Ces trois qualités qui sont très importantes dans la réflexion, et pas nécessairement la réflexion mathématique, dans la réflexion logique, constituent ce qu'on appelle une relation d'équivalence. Et l'ensemble des éléments qui sont triés par les relations d'équivalence donne donc, par ce tri, les méta-éléments qui constituent donc ce qu'on appelle un espace quotient. Voilà. Alors c'est fini. Pour les mathématiques, j'en ai assez. Là, si je commence à voir des sourcils qui se froncent. Alors, le ternaire, donc, est quelque chose d'important et nous le retrouvons partout. Vous savez que par trois points non alignés passe un plan. C'est bien. Mais c'est important, c'est très important. Regardez, on va prendre un exemple pratique, un exemple de tous les jours. Le trépied, toujours stable, pourvu que vous ne soyez pas sur une pente terrible, mais prenez un guéridon à trois pieds, posez-le sur un sol qui n'est pas très plat, pas de problème, il ne bouge pas. Il ne bouge pas parce qu'il est en réalité sur le plan constitué par ses trois pieds. Prenez au contraire une table à quatre pieds, quand vous allez au restaurant, une fois sur deux, le quatrième pied attend que les trois pieds se mettent d'accord, et en réalité, c'est le serveur qui vient et qui met un petit bout de carton là pour que la table ne vibre plus. Trois donne donc une image de stabilité. Regardez le triangle équilatéral. C'est un triangle merveilleux. Si vous prenez son cercle circonscrit, c'est-à-dire le cercle qui passe par... Et si vous le faites tourner, il ne va pas changer de forme. Vous allez toujours le reconnaître. Il est, comme on dit, globalement invariant par rotation de 60 degrés. Donc, cette beauté suscite en même temps le sentiment de pérennité. Est-ce que je me fais comprendre, là, ça va?
Oui.
Bon, c'est pas trop abstrait. Alors, dans le ternaire et dans la géométrie, il y a beaucoup d'éléments qui nous interpellent, évidemment. Je vous ai parlé légèrement du triangle équilatéral. Je pourrais vous parler du triangle rectangle, hein, fameux théorème de Pythagore, qui caractérise le triangle rectangle. Mais il faut savoir que les triangles rectangles, les ternaires de Pythagore, donc ces ternaires-là, ces trois nombres, le plus connu, c'est 2, 3, 2 au carré, 4, plus 2, 3, 2 au carré, 4, plus 3 au carré, 9, 9 et 4, 13, racine de 13, ça ne me va pas. Alors 3, 4, 5, 3, 4, 5, là ça va très bien. C'est celui qu'on connaît le mieux. 3 au carré, 9. 4 au carré, 16. 16 et 9, 25. C'est le carré de 5. Eh bien, les anciens utilisaient des triangles 3, 4, 5 qui leur permettaient de construire tranquillement l'angle droit. Ils en avaient besoin, on a toujours besoin d'angle droit, on a besoin de fabriquer des équerres, on a besoin de construire des murs, on a besoin des équerres. Donc, le triangle 3, 4, 5, tous les homothétiques et d'autres aussi, étaient des constituants qui permettaient donc d'imaginer, de tracer même le triangle rectangle et donc l'angle droit. Alors, on savait, mais on ne savait pas pourquoi. On ne savait pas pourquoi Euclide, dans ses éléments, disait bien, a énoncé quelque chose qui n'est pas terrible comme énoncé, il aurait été collé au brevet du collège, Euclide. Mais on a eu une démonstration qui, je ne sais pas si elle date d'Euclide, je ne sais pas, à l'aide de petits carrés, vous verrez, si vous avez mon bouquin, vous verrez, avec des petits carrés, on arrive à démontrer qu'un triangle rectangle 3, 4, 3, 4 a pour hypoténuse 5. Donc les gens ont inventé des choses, alors que maintenant, évidemment, pour nous, c'est très simple, parce que nous avons un tas d'outils mathématiques, mais qu'ils n'avaient pas. Donc vous avez le triangle rectangle, très important, mais vous avez aussi des triangles isocèles qui sont, on va dire, merveilleux un peu. Ce sont les triangles d'or, dont on vous parle tant. Alors, triangle d'or, rectangle d'or, nombre d'or. Bon, on en fait des bouquins. Hein. On en fait des bouquins, ça a beaucoup de succès. Je ne sais pas si c'est à cause du mot or. Le nombre d'or, depuis 1914, je crois, est représenté par phi. Pourquoi phi ? Parce que c'est Phidias, qui fut donc le concepteur ou le sculpteur, je ne sais plus, le sculpteur celui qui a décidé du Parthénon, de la construction du Parthénon, c'était Périclès. Et après, il y a Phidias et... Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Peu importe. Mais en tout cas, le nombre phi, qui est en réalité 1 plus racine de 5 sur 2, alors, 1 plus racine de 5, c'est de 236. Donc, 1 plus racine de 5, ça fait 3,236. Vous divisez par 2, alors ça vous donne donc 1,618 et des poussières. Mais c'est un nombre irrationnel. Hein. Il a un développement infini et non périodique. Donc, on a des valeurs approchées. Et nombre de gens trouvent le nombre phi un peu partout. Moi, je suis très dubitatif. Et comme mathématicien, vous savez, entre phi, il y a des nombres plus importants en mathématiques, ne serait-ce que pi, par exemple. Donc, vous avez néanmoins ce fameux triangle d'or. Qu'est-ce que c'est que le triangle d'or ? Vous avez deux triangles d'or. Un qui est comme ça. Non, c'est de dessiner un peu au pif. Hein. Mais le rapport de cette longueur sur la base est égal à phi, à 1 plus racine de 5 sur 2. Ça, c'est le triangle d'or aigu. Et puis, vous avez le triangle d'or obtus, qu'on va retrouver en franc-maçonnerie en particulier. Et là, c'est le rapport de la base sur un côté qui est égal à phi. Donc, un triangle d'or aigu, un triangle d'or obtus. Avec ça, on fabrique... où on le fabrique à l'aide du pentagone régulier. Encore faut-il savoir construire le pentagone régulier. Demandez à quelqu'un au débeauté de construire le pentagone régulier, il va avoir quelques difficultés, moi y compris. Et je trouve merveilleux que les anciens aient pu dessiner ça. Avec le pentagone régulier, vous avez donc, dans le pentagone régulier, qui est comme ceci, à peu près, vous avez, en prenant un sommet et deux sommets opposés, vous avez les triangles d'or aigus. En prenant trois points consécutifs, vous avez le triangle d'or obtus. Et vous pouvez fabriquer l'étoile à cinq branches qu'on appelle le pentagramme. Tout ça, ce sont des objets mathématiques qui sont très intéressants parce qu'ils interviennent dans la symbolique. Et je pense que j'aurai le temps quand même de vous parler un peu de symbolique à condition que j'accélère un peu. Alors, quand même, je voudrais dire un mot du triangle encore parce que le triangle est à la base de la construction des pyramides. Les pyramides ont des faces triangulaires. La base étant soit un triangle, donc on a ce qu'on appelle un tétraèdre, mais les pyramides égyptiennes sont à base carrée, avec des dimensions absolument extraordinaires. Ensuite, je vais vous parler donc du triangle en architecture. Vous connaissez tous les frontons triangulaires. Fronton du Parthénon, fronton, je sais pas, du Panthéon, etc. C'est-à-dire ce qui est apparu soit dans l'architecture romaine et grecque, soit celle qui est apparue après ce qu'on a appelé la Renaissance. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, on a considéré que tout le style gothique était une catastrophe, que c'était laid comme tout. Et il semble qu'on n'ait pas démoli les églises gothiques simplement parce que ça coûtait trop cher. Voilà. Sinon, à ce moment-là, on trouvait que, effectivement, ce qui était beau, c'était le piédestal, les colonnes, le fronton. C'est quand même intéressant parce que ce fronton, avec son piédestal et ses colonnes, c'est déjà, on rentre dans l'ésotérisme, on rentre dans cette réflexion, puisque si vous regardez une façade, vous vous apercevez que votre regard est conduit vers le haut, il est conduit vers le ciel. Donc on est dans la réflexion ésotérique en plein, qu'on retrouvera par exemple dans l'hermétisme, qu'on retrouvera dans la table d'Émeraude, dans laquelle il y a une phrase qui est tout à fait extraordinaire, « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Hein, » ce lien qui se fait entre le sol, alors après, au niveau ésotérique, on va dire que le sol, c'est le vulgaire, c'est le profane, et le ciel. Et là, on va dire que donc il y a un lien entre, on va faire un lien entre le divin, le sacré et le profane, le vulgaire, le concret. Donc le ternaire, on va le trouver en architecture, on va le trouver dans les monuments, mais on va le trouver dans les plans. Nous sommes à Bordeaux. Bordeaux a été rénové au XVIIIe siècle par trois intendants. On en connaît un, Tourny. Les deux autres, on les a oubliés. Alors, il y en a un, Boucher. Il a sa place, je crois que c'est une place près de la chambre de commerce, du palais de la Bourse. Et il y en a un autre, Dupré de Saint-Maur. Il a un vulgaire boulevard qui n'est pas carrossable, qui se trouve entre Bacalan et les bassins à flots. Et Tourny, il a la place et il a la statue. Je ne sais pas si c'était le dernier, mais en général, l'histoire est toujours réécrite par les vainqueurs. Bien, alors, j'ai fait un tour d'horizon. Donc, non, je n'ai pas terminé avec le triangle d'or bordelais. Parce que quand vous écoutez les agents immobiliers, ils vous disent le triangle d'or bordelais parce qu'ils ont les yeux qui font comme ça et ils pensent au prix du mètre carré. Ils n'ont pas tout à fait tort. Mais en réalité, il s'agit effectivement d'un triangle pas tout à fait équilatéral, mais un superbe triangle avec comme sommet le grand théâtre qui fut construit par un franc-maçon. Ensuite, le côté sud des allées de Tourny, la place Tourny, la place, le cours Georges Clémenceau, la place Gambetta et le cours d'intendance. Et pour arranger la chose au centre, vous avez le marché des grands hommes. Et nous sommes donc en plein 18e avec toutes les rues qui partent avec les noms des grands hommes et des grands philosophes. Vous avez, une ville qui a été construite par les francs-maçons. C'est Washington. Washington a été construite par les francs-maçons, à l'instigation d'ailleurs de Washington. Et le dernier édifice construit à Washington, c'est le Pentagone. Pentagone, donc les triangles d'or, etc. Nous y sommes. Nous y retrouvons. Alors, je voudrais dire un mot quand même maintenant de la représentation et de la propriété des nombres. Je reviens un peu aux nombres. On va dire 1, 2, 3, allez, on va pas aller plus loin. Mais regardez, 1, avec 1, je vais engendrer tous les nombres entiers. Pas les nombres fractionnaires, pas les nombres, les entiers relatifs, mais tout ce qu'on appelle les entiers naturels. Avec 1, par itération, je peux engendrer tout. Sauf 0. Ah, 0, ça a été un gros problème. Pour les Grecs anciens, 0, ça n'existait pas. Parce que c'était le vide pour eux. Donc, pas question. C'est quand même au 7e siècle, simplement au 7e siècle, on a un mathématicien indien, des Indes donc, qui a imaginé zéro en disant « mais je peux faire 1 moins 1 ». 1 moins 1, ça me donne une quantité que je vais appeler zéro. Ça a été un grand progrès, mais ça a été difficile à concevoir. Très difficile à concevoir. Mais avec 1, on fabrique donc tous les nombres entiers. Regardez bien comment est dessiné 1 en notation indo-arabe. Ah, on dirait presque, pardon mesdames, un phallus. C'est rigide, c'est masculin, c'est raide. Alors je ne veux pas dire c'est puissant. Si, c'est puissant quand même. Hein, on va dire ça, puisqu'il est capable d'engendrer tous les autres. 1 plus 1 donne 2. Mais 2, mais c'est la féminité. Regardez comme c'est... On dirait un cygne qui est en train de glisser sur l'eau. C'est magnifique, le 2, un signe. Très féminin. 1 et 2, 1 plus 2, ça fait 3. 3, c'est l'enfant. On se retrouve avec le ternaire. Et 3, l'enfant, il est à la fois un peu rigide, mais un peu efféminé. Et on a des courbes douces. Et on a une structure verticale. On a toute une symbolique dans ces nombres-là. C'est extrêmement intéressant. Alors, je vais parler de la pensée. Donc, je vous ai déjà dit donc qu'il y avait pour la pensée, nous avions la thèse, l'antithèse et la synthèse, qui constituaient donc un métaplan, mais nous pouvons voir d'autres choses. Alors, j'ai des dessins, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous les montrer. Mais nous avons, que ce soit dans la Kabbale juive ou que ce soit dans l'hermétisme, en particulier dans j'ai un trou. Je cherche le nom des hommes qui sont capables de transmuter. Les alchimistes, voilà. Merci. En alchimie, vous avez l'objet, et dans la Kabbale aussi, l'objet, l'action, le résultat. Et ceci constitue un ternaire, qui est un ternaire puissant, et que nous retrouvons très souvent. Voilà, je ne voudrais pas trop parler de ça. Je voudrais parler un peu de la logique aussi. Parce que vous allez me dire, la logique, c'est binaire, alors que je me fasse un peu plaisir. La logique, c'est binaire, effectivement, c'est oui et non, on vous a tous appris ça. C'est ce qu'on appelle la logique binaire. Elle implique un principe, un grand principe, qui est le principe du tiers exclu. Tu dis oui, tu dis non, mais tu n'as pas le droit de dire autre chose que oui ou non. Principe du tiers exclu. Et si on disait qu'on s'autorise le principe du tiers inclus ? Ça veut dire j'ai le droit de dire oui, j'ai le droit de dire non, ou j'ai le droit de dire je ne sais pas décider. Nous avons bien été obligés, nous les mathématiciens en particulier, les informaticiens, nous avons bien été obligés de fabriquer une logique ternaire et non plus binaire. Pourquoi ? Eh bien parce que tant qu'on a fait calculer à l'ordinateur des soldes de compte, la comptabilité ou des calculs scientifiques, pas de problème. Mais dès lors qu'on en fait des enquêtes, dès lors qu'on a travaillé dans ce qu'on appelle les sciences molles, les sciences dures, c'est les sciences telles que les mathématiques d'abord, évidemment, les plus dures à comprendre, mais aussi la physique, la chimie, les sciences. Quoi. Mais les sciences molles dans lesquelles, la sociologie par exemple, je ne peux pas classer, par exemple, les gens qui vont voter pour Tartampion, les gens qui vont voter pour Tartuffe, mais les autres, qu'est-ce que j'en fais ? Si je pose la question à quelqu'un, tu votes Tartampion ou tu votes Tartifume ? Il me dit, je vote blanc. Bon. Il faut donc que l'ordinateur soit capable d'analyser ces situations-là. Et nous avons donc conçu, en liaison avec le développement de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, pour les initiés IA, l'intelligence artificielle, on a conçu une logique ternaire. Et vous allez voir que ça a son importance. Je vais prendre la question, est-ce que tu crois en Dieu ? Bon, l'athée dit non, peinard. Le théiste dit oui, peinard. Mais le déiste ou l'agnostique, qu'est-ce qu'ils répondent ? Ils ne peuvent pas répondre. Déiste, je vais vous donner un exemple de déiste, c'est Voltaire qui disait « L'univers m'interroge et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. » Bon. Bon, l'agnostique, il dit ben, « Si on me le démontre, je croirai. » En tout état de cause, vous voyez qu'à la question « Est-ce que tu crois en Dieu ?» il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, il y en a qui disent « Je ne sais pas répondre. » Ou « Est-ce qu'un Dieu existe ?» On va prendre plutôt « Est-ce que Dieu existe ?» Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, il y en a qui disent « Je ne sais pas. » Donc à ce moment-là, la logique ternaire va nous servir et va nous permettre de poursuivre une spéculation qui peut être intellectuelle ou qui peut être crypto-intellectuelle à travers des programmes, par exemple. Nous sommes encore dans le ternaire. Alors, pour ne pas trop prendre de temps, je vais parler, évidemment, des religions. Eh bien, les religions ont fait ample consommation du ternaire. Nombre de religions utilisent le ternaire. J'ai parlé de la Trinité chrétienne, on y reviendra, mais vous en avez partout. Souvent, dans les religions égyptiennes du temps des pharaons, vous aviez des trinités qui représentaient, alors la plus connue de toutes, c'est évidemment Isis, Horus et Osiris, voilà, vous les avez ici, là, vous voyez Osiris est au milieu sur un piédestal, je vais vous expliquer pourquoi, et ici vous avez Isis et Horus avec son chapeau ou sa tête en faucon. Et cette image est très symbolique. C'est un bijou qui est au Louvre, mais c'est une image très symbolique. Il faut revoir la mythologie de ce ternaire-là. Alors, pour le plaisir, là, ça va changer un peu des nombres. Je vais vous raconter l'histoire. Elle est Isis avait pour époux et pour frère, on n'était pas trop regardant à ce moment-là. Donc, Isis avait comme époux et frère Osiris. Voilà que le frère, alors, Osiris s'occupait des cultures, c'était un merveilleux dieu qui s'occupait des cultures, et son frère, Seth, s'occupait plutôt des déserts. Donc, évidemment, il avait mauvaise. Il a essayé d'assassiner Osiris, et il l'a mis dans un cercueil en plomb, et hop, il l'a jeté dans le Nil. Bon, Isis a réussi à le récupérer avec les copains. Parmi les copains, vous avez Thoth, dont on va reparler, très important, Thoth. Hermès, si vous voulez. Le Hermès grec, le Thoth égyptien. Bon, mais elle cache Osiris dans un marais. Seth, ça ne vous pas vaincu quand même. Il attrape Osiris et il le coupe en morceaux. Et il jette les morceaux à la mer. Isis, ça ne vous pas plus vaincu. Avec Thoth, elle cherche les morceaux et elle les retrouve. Et elle le reconstitue. Manque de chance, il y en a un qui manque, et c'est le plus important. Alors, elle fabrique... Excusez-moi, ça va être légèrement porno, mais elle a fabriqué le premier godemiché. En argile. Mais ça a suffi, ils ont enfanté Horus. Et puis après, Osiris est monté au ciel et il administre les champs d'Yalou, dit de D'apostrophe Yalou, I-A-L-O-U. Et le passage, quand les Égyptiens mouraient, leur âme était pesée par le fameux Thoth. Et si l'âme était plus légère qu'une plume, elle allait au champ d'Yalou. Sinon, elle était bouffée par un monstre. Et là, vous avez la symbolique. Vous voyez bien que Osiris est sur une espèce de piédestal. Il n'a pas la même dimension que Isis et que Horus. Et que Isis et Horus le protègent, chacun mettant la main comme ça pour le tenir, mais sans le toucher, parce qu'ils ne sont pas de la même dimension. L'un est au ciel et l'autre est plus près des hommes. Et c'est important parce que, surtout cette légende, parce que dans les pharaons jouaient le rôle d'Horus. Et ils avaient une cérémonie quand le jeune pharaon, quand le vieux pharaon mourait, le jeune pharaon était d'abord transporté par les prêtres dans un lieu secret où il devait ingurgiter des produits psychotropes et pendant 3 jours, il ne réapparaissait pas. Il était, prétendaient les prêtres, monté pour avoir les consignes des dieux. Et au bout de 3 jours, il revenait et il y avait une cérémonie du relèvement. Et vous retrouvez cette cérémonie du relèvement du mort pour en faire un vivant, vous la retrouvez en franc-maçonnerie. Vous voyez, il y a des liens extrêmement ténus et en même temps très symboliques, parce que la franc-maçonnerie dont nous allons parler tout à l'heure est l'héritière de tout un tas de traditions. Alors, dans les triades, vous avez évidemment toutes les triades grecques et romaines. Bon, je vais en prendre une qui est la plus connue, Jupiter, Minerve et Junon. Bon, Jupiter, le dieu des dieux, le roi des rois, je ne sais pas trop comment. Minerve, la déesse de la guerre. Et Junon, la déesse des semailles. Mais regardons bien depuis les débuts du temps, dès que, on va dire au néolithique, dès que les sociétés se sont créées, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu une caste de prêtres, les chamans, on a eu une caste de seigneurs, avant c'était les guerriers, et là on a une caste d'agriculteurs, de producteurs. Et nous l'avons eu, mais nous l'avons eu, nous l'avons toujours eu. En 89, vous avez le tiers-état, vous avez la noblesse et vous avez le clergé. Et ça se perpétue. Cette structure ternaire de la société, on retrouve encore là le ternaire qui est omniprésent dans nos civilisations. Que puis-je vous dire d'autre ? Ah, ben un peu sur la Trinité chrétienne, quand même, c'est intéressant. Alors, évidemment, mon point de vue n'est pas un point de vue très, très orthodoxe du point de vue de la chrétienté. Hein. Il faut savoir que quand a-t-on décidé que Jésus était officiellement un dieu ? Quand a-t-on décidé qu'il était de la même substance que Dieu le Père ? Concile de Nicée, 325. Concile réuni par Constantin. Constantin qui cherchait à asseoir son pouvoir sur une religion. Alors il avait le choix entre Mitra, vous avez... Durant la période romaine, Mitra était un dieu très important. Et vous avez, si vous allez au musée d'Aquitaine, vous allez voir des statues de Mitra. Il y avait un temple de Mitra, cours Victor Hugo. Il y en avait un autre à l'UGC. Et donc, il y avait Mitra. Et il y avait effectivement la religion chrétienne qui naissait. Qui avait déjà, donc... de nombreux évêques répartis dans toute l'Europe. Et donc Constantin a réuni d'autorité un concile à Nicée et on en est venu à discuter, à confronter deux thèses, Arius et Athanase, afin de savoir, l'un disait que Jésus était de nature humaine mais inspiré par Dieu, et l'autre disait que c'était de la nature divine. Donc on a voté pour Athanase. On n'a pas voté pour Arius, et d'ailleurs on a commencé par évacuer tous les gens qui voulaient voter pour Arius, comme ça on a eu on était sûr d'avoir la majorité. Ça fait penser à quelques conseils municipaux. Ça. Et donc là. On a eu la consubstantialité. Lisez le Concile de Nicée, le texte du Concile de Nicée. Il explicite bien la consubstantialité entre le Père et le Fils. Et il cite à la fin, et il y a aussi le Saint-Esprit, mais pas dans la même nature. Le Saint-Esprit n'est apparu dans la Trinité chrétienne qu'au Concile de Constantinople, bien longtemps après, à la fin du IVe siècle. Là, on était au début, à la fin. Entre-temps, Constantin était mort, d'ailleurs. Et pourquoi ? Pourquoi a-t-on eu besoin de cette Trinité ? Alors que la religion chrétienne était déjà toute puissante à Rome. Oui, elle était toute puissante. Mais voilà, elle était puissante dans les élites. Mais le problème, c'est que le petit peuple, il s'intéressait aux moissons. Et il y avait une triade qui lui allait bien, c'était la triade capitoline. La triade du Capitole, Jupiter, Minerve. Minerve, voilà, je cherchais. Et Junon, c'est surtout Junon qui est intéressante. C'est celle qui s'occupait des moissons. Ou Quirinus, dans Triade précapitoline. Toutes les religions se sont bâties sur un substrat qui est celui des religions précédentes. Donc, c'est à ce moment-là, pour convaincre le petit peuple, qu'on a fait les trois hypostases et on a mis sur le même plan le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et le méta-objet s'appelle la Trinité. Petite histoire dans les grandes histoires. Voilà, que puis-je vous dire d'autre ? On va retrouver effectivement, on va retrouver le ternaire partout, on va le retrouver dans la religion juive. Hein, vous avez les séfarotes de l'arbre, du fameux arbre, qui sont constitués par trois piliers, pilier médian, le pilier Boz et le pilier Jacquin. Vous avez le ternaire dans l'architecture avec deux colonnes et le linteau ou le substrat. Je vous signale d'ailleurs que quand on parle de symétrie architecturale, c'est une erreur. On parle d'une dualité de deux colonnes. En réalité, il faut nécessairement, pour qu'il y ait symétrie, que les deux colonnes soient sur un même plan horizontal, donc elles aient ou le même piédestal horizontal, ou le même linteau. C'est la symbolique du temple de Jérusalem. Il a existé ou il n'a pas existé, pour l'instant on n'a pas trouvé de traces, mais du moins, la Bible le décrit. Elle le décrit de la façon suivante, si vous regardez bien. La façade du temple est tournée vers l'Orient. Il y a deux colonnes, l'une qui s'appelle Boz, l'autre qui s'appelle Jacquin. Et il y a un linteau. L'une des colonnes est au sud. Elle représente donc les pays du sud, Juda. Et l'autre est au nord, puisqu'elles sont face à l'Orient. Il y en a une au sud et l'autre au nord. Elle représente donc la deuxième partie d'Israël, en l'occurrence. Et le linteau représente ce qui unit, ce qui est commun, c'est-à-dire Yahvé, c'est-à-dire Dieu. Voilà, donc il y a cette symbolique ternaire que vous retrouvez là-dedans. Voilà, que puis-je dire d'autre sans être trop lassant ? Et puis je ne sais pas si je suis très intéressant d'ailleurs. Alors, si, je voudrais dire un mot quand même d'un copain que j'aime bien, moi, c'est Zarathoustra, le zoroastrisme. Bon, le zoroastrisme est bâti sur un ternaire. Alors là, je prends mes notes parce que je ne m'en souviens jamais. Donc, je prends les tuyaux. Bonne parole, bonne pensée, bonne action. C'est un ternaire qui s'appelle la droiture. Ce sont des ternaires qu'on retrouve aussi dans le bouddhisme. Dans le bouddhisme, on a des ternaires similaires. Voilà, alors, un mot maintenant de la franc-maçonnerie, parce que la franc-maçonnerie, c'est l'héritière de toutes ces traditions ésotériques. Alors, ésotérique, exotérique, je vais en dire un mot quand même, parce que ce n'est pas très clair dans l'esprit. Qu'est-ce que j'appelle exotérique ? Qu'est-ce que j'appelle ésotérique ? Exo, E-X, ESO, E-S. Ce qui est exotérique, c'est ce qui se répand vers l'extérieur, évidemment. Donc, tous les livres saints, en particulier, qui vont multiplier la parole et permettre à un clergé de contrôler l'apprentissage de la religion, sont des livres écrits, donc, qui sont donc exotériques. La Bible, le Nouveau Testament, le Coran, exotériques. Par contre, vous pouvez avoir un enseignement dit caché, pas plus caché que la franc-maçonnerie, mais on va dire discret. Et cet enseignement discret se fait d'initier à initié, de maître à élève. C'est ce qu'on appelle un enseignement ésotérique. Il n'y a pas d'écrit. Pythagore, l'un des princes de l'ésotérisme, n'a pas laissé d'écriture. Vous avez des ésotérismes qui sont bâtis sur les livres saints, mais qui sont des traditions donc qu'on pourrait qualifier de cachées ou de discrètes, comme vous voulez. Et dans les religions, ben, vous avez la kabbale juive, vous avez une kabbale chrétienne aussi, vous avez le soufisme. Ce sont des religions, des transmissions ésotériques. Et la franc-maçonnerie fait partie de celle-ci. La franc-maçonnerie est une transmission ésotérique. Elle se veut ésotérique. Ceci dit, elle n'a rien à cacher, la franc-maçonnerie. Vous prenez le nombre de bouquins qu'il y a en franc-maçonnerie, il y a une littérature absolument innombrable, et vous pourrez savoir tout. Vous saurez tout et vous ne saurez rien en réalité, parce que la seule chose qui soit importante, le seul secret de la maçonnerie, parce qu'on parle des messes basses, des ci, des là, il n'y a aucun secret en maçonnerie. Le seul secret, vous le partagez tous, que vous soyez franc-maçon ou que vous ne le soyez pas. C'est-à-dire où j'en suis de ma réflexion personnelle. Alors c'est vrai que pour quelqu'un qui est dans un schéma initiatique, il peut se poser plus facilement la question, qu'il soit soufi ou qu'il soit kabbaliste ou qu'il soit franc-maçon, il peut se poser plus la question que quelqu'un qui ne se préoccupe pas de sa réflexion personnelle en fonction d'un certain nombre de canons, de réflexion, de spiritualité. Donc la franc-maçonnerie n'a rien à cacher. Le seul secret, c'est celui qui existe dans le cœur des francs-maçons, dont ils ne sont même pas très conscients. Et puisqu'ils ne sont pas conscients, il n'est pas facile de l'expliquer aux autres, et encore moins aux profanes. Mais le reste, il n'y a rien à cacher. Alors, vous avez des rituels que vous pouvez trouver dans les bouquins. Il y a des bouquins de rituels. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, ce n'est pas... ce n'est pas le savoir. Quand je lis un bouquin, un livre, j'obtiens du savoir. Je vais penser à un bon copain là, que j'aime bien, qui s'appelle François, de son nom Rabelais. Sapience sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et il a tout dit. Le savoir sans une réflexion, ce qu'on appelle une pratique, ce qu'on appelle une praxis, si vous voulez, donne ce qu'on appelle la connaissance. Autrement dit, la connaissance est la fille du savoir, mais à la condition nécessaire, mais pas suffisante. Je retrouve un peu de mathématiques de temps en temps, il faut bien. À la condition nécessaire et pas suffisante de pratiquer. Je pratique quelque chose, c'est exactement pareil. Allez, jouez à la pétanque. Quand vous êtes à la pétanque, tu as deux boules, tu as un cochonnet, tu vises. C'est le savoir. Jouez, le premier coup, vous allez risquer et gagner. C'est toujours comme ça, les béotiens. Mais après, ça s'arrête. Vous ne jouerez bien qu'avec la pratique. Donc vous aurez, si je peux dire, la connaissance de la pétanque dès lors que vous aurez beaucoup pratiqué. Mais avant, non. Vous n'aurez que du savoir. C'est ce que Rabelais dit quand il dit « Sapience sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Voilà, je pense que donc j'ai un peu parlé de la franc-maçonnerie en tant que discipline ésotérique. Alors, la franc-maçonnerie fait un grand usage, un très grand usage dans ses symboles du ternaire, du triangle, etc. Bon, je ne vais pas vous en parler parce que ça va alourdir. Pour pas grand-chose, vous le verrez si vous regardez n'importe quel bouquin, le mien ou un autre, vous verrez tous les symboles. Beaucoup de symboles maçonniques sont ou beaucoup d'organisations, comme l'organisation des tenues, comme l'organisation du temple, sont bâties à l'aide du triangle, du ternaire. Et pourquoi ? Eh bien, nous revenons à ce que je disais sur l'archétype. Nous sommes dans la beauté, dans la sérénité, dans la sécurité, dans l'enrichissement. Donc nous retrouvons ce que je disais au départ, c'est-à-dire ce fameux archétype du nombre 3, et la maçonnerie en a fait un usage, qui est un usage naturel, on pourra dire, puisqu'elle est l'héritière de toutes les traditions, des traditions religieuses, bien qu'il y ait des conflits entre le Vatican et la franc-maçonnerie, il y a beaucoup de croyants en franc-maçonnerie, beaucoup de chrétiens, mais d'autres croyants aussi, les traditions ésotériques comme l'alchimie, comme l'hermétisme, etc. Je vous remercie d'être venu et qu'on ait passé un moment ensemble.